Baruch Hashem, nous sommes aujourd'hui, Besiata Dishmaya, avec votre permission, dans la notion de Tzimtzum, dans la notion de contraction. Tzimtzum veut dire en réalité se creuser quelque part. Vous voyez qu'à l'intérieur du mot Tzimtzum, il y a le mot Tzom, comme quand on jeûne. C'est-à-dire qu'il y a ici la notion de jeûner, de ne pas manger, donc de se mettre à vide de quelque chose. Ce qui introduit la notion du tzimtzum, c'est de se mettre dans une condition de manque pour pouvoir, après, compléter ce manque par tout ce qui est censé compléter ce manque. Donc le tzimtzum n'est pas là pour arrêter quelque chose, mais n'est là que pour creuser, pour faire un vide, pour que l'homme, pour que la vie soit avide de recevoir et de se compléter. Les choses étant placées, nous allons comprendre les paroles du Ari Akadosh. Betrilat Otsrot Chaim, au premier degré de son livre, les secrets, les Otsarot, les trésors de la vie, explique le Ari Akadosh. Ve'az tzimtzem atzmo b'emtza oro. Alors il contracta lui-même au centre même de sa lumière. Donc c'est une expression qui est compliquée parce qu'il s'agit de l'infini et nous parlons d'une contraction. Comment est-ce que l'infini peut se contracter? Comprenez bien qu'il ne s'agit pas, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois dans les cours précédents, on ne parle jamais de l'infini, béni soit-il, mais de son dévoilement. Alors c'est ce dévoilement qui a été contracté, pas lui. Benekudat Amerkaz, et donc on appelle ça le point central. Pourquoi ça s'appelle un point central? Ben, tout simplement parce que c'est la pensée centrale de l'infini, de se révéler. Donc, il faut tout comprendre au niveau de la pensée et non pas au niveau matériel. On ne peut pas faire un vide dans l'infini. On peut tout simplement éviter de tout dévoiler. Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, je le répète. La nature de l'infini, c'est de se répandre. Donc, se répandre, c'est déjà une action. Donc, dans cette action de diffusion de la lumière, il peut y avoir une mise en cachette. C'est-à-dire, la diffusion de la lumière ne sera plus comme au départ. Mais moi, source de tout, je n'ai pas changé. Vous êtes avec moi. Ça veut dire que ce qui change, ce n'est qu'en réalité que ce que je veux bien montrer de ma lumière. Donc je vais contracter pour pouvoir après remplir. Donc la contraction, par définition, précède toujours l'expansion. À chaque fois que vous voulez respirer, eh bien, vous faites exactement ces deux actions. D'abord contraction, après expansion. Votre cerveau, même si vous croyez que votre boîte crânienne est solide et qu'elle ne bouge pas, c'est faux. Votre boîte crânienne est en permanence en expansion et en contraction. Et certains médecins peuvent le sentir tout simplement en posant les mains sur la boîte crânienne. Tout dans ce monde marche avec ce double degré. Expansion, contraction. Expansion, contraction. Vous voyez bien le cœur, c'est le plus simple à voir, mais dans tous les domaines, c'est la même histoire. D'où ça vient? Eh bien, de ce que Dieu lui-même fait au moment de la création du monde. Il crée ce système, il le met en place, pas pour créer le monde seulement, mais pour que le monde vive selon ce rythme-là. Donc le tzimtzum va rester tout le temps. Même lorsque ce tzimtzum va, en deuxième lieu, se remplir de lumière, à l'intérieur de tout ce système, il y aura toujours répétition de cette formule. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a don de quelque chose, il faut au préalable avoir un désir de cette chose. Donc une contraction. Et donc la contraction va créer le dévoilement. De la même manière que la femme, avant de dévoiler un bébé, va avoir elle aussi des contractions. Ce n'est pas par hasard. L'accouchement d'un bébé passe automatiquement, obligatoirement, par des contractions. Et c'est la contraction qui va donner l'action. Donc nous avons une action et une contre-action. Je sais qu'en français vous n'entendez pas les choses parce que vous êtes né dans cette langue. Mais moi, qui suis étranger à cette langue, qui l'ai apprise sur le tas, eh bien, je décompose les mots. Donc, dans la contraction, il n'y a pas une contraction, il y a une contre-action. Et lorsque tu sais que cette contre-action va générer l'action, eh bien, tu dois conjuguer avec les deux formes d'être. Et encore une fois, je répète et je conclue pour l'instant que tout ce que nous faisons dans notre vie, c'est une contraction pour après donner une expansion des choses. Là aussi, pour donner un cours, j'ai contracté ma pensée et mon cours dans des lettres. Donc vous voyez que la contraction, là c'est une contraction, ce sont des lettres noires. Eh bien, ça nous permet à tous, par cette contraction, d'avoir un dévoilement. Moralité, le point central de toute la création du monde, c'est cette contraction, puisque c'est l'idée première de l'infini de se dévoiler. Donc s'il veut se dévoiler dans ce monde, il crée un système de contraction qui va précéder à l'action du dévoilement. Ça s'appelle le tzimtzum. Donc dans le tzimtzum, il y a en fait la création de ce vide, la création de ce manque, qui, en deuxième lieu, va commencer à se remplir petit à petit. Et donc le centre de notre vie, c'est toujours cette contraction qui va donner naissance à l'action. Donc on appelle ça Nekudat Amerkaz Emtsaïd Shebo. C'est comme si je mettais en fait la lumière du dévoilement sur les côtés. Comme si je jetais une pierre dans l'eau. Vous voyez qu'il y a des formes de cercles qui s'éloignent. Eh bien, c'est comme ça. J'éloigne en fait le dévoilement, je crée un vide. Et dans ce vide, en réalité, il y a une tension maintenant sur les côtés, puisque la lumière, entre guillemets, est partie sur tous les côtés du cercle, d'une manière circulaire. La lumière ne peut plus revenir de la même manière qu'elle a été écartée. Car si elle revient de la même manière, c'est-à-dire que le cercle se referme, on a perdu tout ce qu'on voulait faire. Donc le tzimtzum va créer un système où le retour de la lumière ne se fera plus par tous les côtés, comme la lumière s'est éloignée de tous les côtés. Cette fois-ci, la lumière reviendra dans ce ballon vide créé que par un seul orifice, que par une seule direction. Ceci pour justement justifier le tzimtzum, la contraction. Donc la contraction reste. J'en ai besoin. Si j'ai éliminé la contraction, vous comprenez que toute la lumière reprend sa place et il n'y a plus rien. En fait, il n'y a que lui. Donc la lumière qui s'est contractée ne reviendra pas de la même manière qu'elle s'est contractée sur les côtés. Elle reviendra par un faisceau de lumière qui va venir donc de cette lumière qui s'est mise sur les côtés de ce ballon, et elle va repénétrer le ballon que par ce faisceau-là, que par cette ligne-là, qu'on va appeler bientôt le Kav Ha'or, le faisceau de lumière. Donc cette lumière qui est partie sur les côtés, Ve'asvibot ve'nishar halal bentaim, les paroles du Harizal, étant donné que cette lumière s'est éloignée d'une manière égale, puisque la forme est une forme d'une sphère, d'un ballon, donc le ballon s'est vidé de la lumière, et maintenant, tout autour, la forme de ce ballon, c'est en réalité un surplus de lumière qui s'est éloigné du centre et qui s'est éloigné sur les côtés. Donc, tout autour de cette balle vide se place la lumière qui s'est éloignée du centre. Vous êtes avec moi. Moralité. Il y a maintenant un surplus de lumière sur les contours de ce ballon et un vide de lumière à l'intérieur de ce ballon. J'explique d'une manière très lente pour que les choses soient claires. Qu'est-ce que cela veut dire, tout ce que nous sommes en train de raconter ici? Bien, tout simplement que l'infini, béni soit-il, nous montre son humilité. Il se cache pour laisser la place à autre chose. Akadosh Baruch Hu ne prend pas toute la place. Comme nous, d'ailleurs, nous devrions faire attention de ne pas être tout le temps présent et de savoir laisser un petit peu la place à l'autre, la place à ta femme, la place à ton mari, la place à tes enfants. Parce que si tu prends trop de place dans la vie, eh bien on ne voit plus que toi. Et donc ton ego risque d'étouffer ton entourage. Première leçon donc de l'infini béni soit-il, l'humilité dans l'absolu. Vous n'allez plus me voir. Je me cache. Je vais créer en fait une cachette. Je vais créer un olam. Traduction du mot olam, cachette. Se cacher en hébreu, ne'elam. He'elem. Donc Akadosh Baruch Hu crée un monde dans lequel il se cache. Pourquoi? Bien pour laisser l'existence. Si Dieu, vous comprenez bien, dans son infinité se dévoile, il n'y a plus de place pour rien d'autre. Donc l'infini, béni soit-il, cache son infinité pour justement laisser la place à des choses beaucoup plus faibles, beaucoup plus petites, comme nous. Et donc moins Dieu se dévoile, plus nous existons, en tout cas plus nous avons l'impression d'exister. Plus Dieu se dévoile, plus nous sommes acculés. Plus nous sommes petits, plus nous n'avons plus le choix. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Donc nous avons le choix dans notre vie, ce que vous appelez le libre arbitre, d'autant plus que Dieu se cache. Car d'ici Dieu se révèle, il n'y a plus de libre arbitre. Parce que vous voyez la lumière, c'est tellement la vérité absolue qui se dévoile que tu n'as plus de choix. C'est ce qui s'est passé, par exemple, le jour du don de la Torah, où la vérité absolue de l'Éternel s'est dévoilée devant les enfants d'Israël. Ils avaient l'impression d'avoir une montagne sur la tête. Vous comprenez bien qu'il n'a pas enlevé la montagne, il l'a mis sur leur tête, ça ne veut rien dire, c'est juste une parabole. Ça veut dire tout simplement que quand je suis face à cette grande lumière de vérité, je n'ai plus le choix, donc j'étais étouffé par cette montagne. Vous êtes avec moi? Moralité, le premier rôle de ce tzimtzum que nous sommes en train d'étudier, c'est de laisser la place à l'autre. Et donc l'infini laisse la place au monde qui va être limité, à toute la création en fait. Maintenant, on va expliquer. Hatzimtzum hu hester hofat oroit barach. Donc, qu'est-ce que le tzimtzum? C'est tout simplement hester, une cachette. De quoi? De l'apparition de sa lumière, béni soit-il. Encore une fois, je répète, pour que les choses soient claires, on ne le cache pas lui, on cache son dévoilement. Lui ne change pas. Ce n'est que par rapport à nous qu'il y a moins de dévoilement. Ce qui nous pousse à dire qu'avant le Tzimtzum, il n'y avait que du dévoilement. Étant donné qu'il n'y avait que du dévoilement et que nous aussi nous étions déjà sous une autre forme, sous la forme d'une pensée divine qui s'appelle Israël, comprenez bien que Israël n'est pas apparu que dans ce monde. Israël était déjà dans la pensée divine. Mais étant donné que dans cette pensée, on n'avait pas le choix, puisqu'il y avait la lumière, il n'y avait que ça, eh bien c'est comme si on recevait la lumière de l'infini gratuitement, sans rien faire. Cette situation s'appelle dans la Kabbalah le pain de la honte. Tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois. Mais tu ne fais rien pour recevoir. C'est tout simplement malgré toi. Alors cette Neshama, Israël, qui était encore dans cette pleine lumière de l'infini, dit à l'infini, je ne peux plus vivre de cette manière, je ne vis pas. Pourquoi je ne vis pas? Parce que ta lumière est tellement forte que moi je n'existe pas. Donc, je n'ai même pas le choix de te recevoir. Je suis violé par cette lumière. Et donc, l'Éternel, je vous fais ça en forme de dialogue. Mais en fait, c'est ce qui se passe. Dis à cette grande Neshama Israël, tu as raison, je vais donc te laisser la possibilité de choisir. Donc, je vais te créer dans un monde où je me cacherai, où je cacherai ma lumière. Et là, tu seras dans un monde où tu auras l'impression que je n'existe même pas. Moralité, quand on arrive dans notre monde, dans ce monde, eh bien, on a l'impression que l'infini n'existe pas. Il s'est tellement bien caché que certains d'entre nous ne pense même pas qu'il existe. Elle est très bonne, sa cachette. On appelle ça donc le Olam. On appelle ça donc le Hester. Maintenant, si j'ai un tout petit souvenir, ou bien j'ai le respect de la Torah, je sais que toute cette cachette n'est pas là pour abîmer ou notre relation, bien au contraire. Elle est là pour me permettre de redévoiler la lumière, la même que j'avais déjà au départ, mais que je recevais gratuitement. Eh bien, cette fois-ci, dans la nouvelle condition dans laquelle je suis, c'est-à-dire dans le monde créé, j'ai le choix de le dévoiler, ou bien de le laisser dans sa cachette. C'est tout. Moralité, notre choix, c'est pas de croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu, ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas. Ce que tu vis de toute façon de son être, ça ne veut rien dire, je ne crois pas en Dieu. Tu vis de son être. La seule possibilité, c'est de dévoiler plus cet être infini qui est en toi ou bien de l'étouffer. Donc tu vis juste comme un animal, premier degré. Tu manges, tu bois, tu dors, tu te multiplies. Donc vous voyez que le choix est restreint. C'est juste de dévoiler cette lumière qui s'est cachée volontairement, ou bien de la laisser dans sa cachette. Voilà tout le secret de notre venue sur Terre. Donc le Tzimtzoum vient nous permettre de mieux vivre, en tout cas de vivre avec un choix, de sentir que nous sommes associés à quelque chose, à une grande histoire, à un grand rêve, que nous sommes associés à un dévoilement de l'infini dans le fini. Donc ça me place dans une situation où je deviens actif, alors que dans la lumière infinie, j'étais passif. Comment est-ce que je peux devenir actif? Parce que Dieu se cache. De la même manière que, à la fin de toute la création du monde, qu'est-ce qu'il a fait le septième jour? Eh bien, il s'est arrêté d'agir. C'est ce qu'on appelle le Shabbat. Donc, si Dieu arrête d'agir, c'est pour me permettre à moi de commencer à agir. Là aussi, c'est le même système, vous comprenez? À chaque fois que Dieu s'arrête, c'est pour me laisser la place de commencer. Donc, Vaishbot, Vayom HaShevi'i, Shavat Vainafash. Donc, le Yom HaShevi'i, il ne s'est pas encore terminé, puisqu'il n'y a pas de pasouk dans la Torah qui nous dit Vayehi Erev. Il n'y a pas de passouk comme ça. Tous les jours qui se sont terminés, c'est écrit clairement. La même chose. Tout a été terminé. On attend un passouk qui nous dit il n'y a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu est rentré dans son Shabbat, Yom HaShvi'i, nous on a commencé à être. Dans combien de temps va durer ce Yom HaShvi'i? 6000 ans. Toute la création du monde, toute l'histoire humaine. Donc nous sommes dans le Shabbat d'Akadosh Baruch Hu, et pour nous, c'est 6000 ans de travail. Vous êtes avec moi? Jusqu'au moment où on va terminer ce Shabbat, et nous aussi on va rentrer dans notre Shabbat, et on va rejoindre Akadosh Baruch Hu dans son Shabbat, et donc il y aura un pasouk en plus dans la Torah, Vayei Erev, Vayei Boker Yom HaShvi'i, et là on va commencer à vivre tous les deux, lui et nous, Yom HaShmini. On va rentrer dans le huitième degré. Je reviens à notre programme. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'arrête, lorsqu'Akadosh Baruch Hu se tait, lorsqu'Akadosh Baruch Hu disparaît, en tout cas sa lumière, c'est pour nous laisser être, c'est pour nous laisser exister, c'est pour nous laisser parler. Donc lui se tait, nous on parle. Lui s'arrête, nous on travaille. C'est comme ça que ça marche. Donc Akadosh Baruch Hu se trouve dans son grand Shabbat et nous on travaille pendant ce Shabbat. Étant donné que nous sommes dans ce monde et qu'Akadosh Baruch Hu est dans son Shabbat, eh bien il ne peut pas profaner son Shabbat, sinon il est Mechalel Shabbat. Donc il n'a pas à intervenir dans notre monde. Il ne vient pas nous embêter pour ne pas être mechalel Shabbat, pour ne pas profaner son Shabbat. Par contre, si ce monde-là dans lequel nous travaillons est en danger, c'est déjà pikuach nefesh. Étant donné que pikuach nefesh doche Shabbat, eh bien lui-même va profaner son Shabbat pour venir intervenir lorsque ce monde est en danger. Donc à chaque fois que Dieu intervient dans notre monde d'une manière miraculeuse, donc d'une manière brutale, Ça veut dire qu'on n'était pas assez fort pour nous débrouiller, donc il était obligé d'être Mechalel Shabbat. Donc plus vous cherchez des miracles, plus ça prouve que vous êtes petit. Donc vous voulez qu'Akadosh Baruch Hu soit profanateur de son propre Shabbat pour venir vous aider. Mais si tu te débrouilles, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de venir faire des miracles dans ta vie. Donc les gens qui attendent des miracles toute leur vie, ce sont des gens petits. Alors que les miracles sont cachés dans la nature, ça c'est la grandeur. Donc la Géoula que nous sommes en train de vivre maintenant, il n'y a plus de miracles comme il y avait à la sortie d'Égypte. Pourquoi ? Parce qu'à la sortie d'Égypte, on était petit, on était nu, ve'at erom ve'eria. Mais maintenant, on est beaucoup plus fort. Donc en Égypte, Akadosh Baruch Hu était obligé de faire son Chiloul Shabbat, parce qu'il y avait Pikuach Nefesh, Doche Shabbat. Mais aujourd'hui, parce que nous sommes beaucoup plus forts, eh bien on ne voit pas l'action d'Akadosh Baruch Hu d'une manière dévoilée. Et les gens qui ne comprennent pas ce processus pensent qu'on est descendu de niveau. Mais pas du tout. C'est parce qu'on a grandi. Donc la Géoula Achrona, la dernière Géoula, va se faire d'une manière cachée. Meloubeshet Bateva, habillée dans la nature. Donc s'il vous plaît, n'attendez pas des miracles. Chaque fois que vous demandez un miracle, ça veut dire « Papa, je ne me débrouille pas bien, viens s'il te plaît. » Moralité. Bisru totat sniut eliona. Grâce à cette humilité divine supérieure, notzar makom panui. Maintenant, il y a un espace vide de qui, de quoi? Eh bien, migilouyav. C'est seulement de son dévoilement qu'il est vide. Il n'est pas vide de lui. C'est-à-dire que ce halal panoui est plein de lui. Mais tu ne le vois pas. Donc il faut faire des nuances. Il faut faire un diouk badvarim. Sinon, tu as l'impression qu'il y a un halal panoui de tout. Mais non, si ce halal est vide de tout, il n'a pas d'existence. Alors il est plein de lui, mais d'une manière il ne se voit pas. Donc c'est son dévoilement que tu ne vois pas, mais lui est là. C'est comme les lettres. Est-ce que parce que j'écris une lettre, je viens de l'inventer, voilà, je suis en train d'écrire Aleph. J'ai écrit Aleph devant vous maintenant. OK ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette lettre Aleph était déjà là ou pas ? Ben oui, elle était déjà là. Elle était dans le vide. Seulement, elle était dans le blanc, tu ne la voyais pas, elle était cachée. Maintenant que je l'ai écrite, qu'est-ce que je viens de faire ? J'ai juste habillé une partie de l'infini. Mais la lettre, elle a toujours existé. Akadosh Baruch Hu existe toujours. Ani Hashem lo shaniti. Moi, je ne change pas. Mais vous, de temps en temps, vous dévoilez parce que vous mettez un vêtement sur une partie de ma lumière. C'est beau. Comment je peux mettre un vêtement sur une partie de la lumière? Mais tout simplement, ce que je fais maintenant. En parlant maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'habiller. Donc j'habille, et vous commencez à comprendre. Alors que tout était déjà là, même avant le shiur. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de Yoel pour être là. Mais Yoel va donner quelques vêtements pour qu'on puisse prendre quelques parcelles de cet infini parce qu'on l'a habillé avec des lettres qui nous permettent de venir, de le faire venir à nous. Donc, comment est-ce qu'on appelle une lettre en hébreu ? Ata, ot, qui veut dire en araméen, viens. Ata, viens. Donc, à chaque fois que j'écris un ata, je lui dis, viens. Donc, deux lettres, viens, viens. Trois lettres, viens, viens, viens. C'est tout. Il y a un monde où il n'y a que des lettres. Ça s'appelle Alma de Ate. En hébreu, Olam Haba. Ça veut dire que si on traduisait vraiment en hébreu la notion de Olam Haba, on aurait dû dire Olam Haotiyot. Alma de Ate. Ça, c'est la vraie traduction. Donc, il y a un monde qui n'est fait que de lettres. Comprenez que la Kabbalah, ce n'est pas seulement des structures de Sphirot. C'est une pensée très profonde. Donc, cette Tzniout d'Akadosh Baruch Hu a permis de nous laisser une place où il n'y a pas de dévoilement. Vezesod. Vesodze, meafcher et kiyum abriya, veabriot, le fils d'arim vanhagot mugbalot ou medudot. Donc maintenant, tout ceci, toute cette disparition du dévoilement, c'est ce qui permet l'existence de la création. Maintenant, vous comprenez pourquoi la création, elle s'appelle bria, parce que c'est quelque chose qui est en dehors. Barra. Vabriot et toutes les créations qui sont de la même racine, bar, briot, bar. Bar veut dire le fils de, en dehors de. Kratoul bar, c'est un chat qui vit à l'extérieur. Donc, berriot, bar, c'est des existences qui sont ex. Pourquoi on dit ex-isté ? Ex veut dire extérieur. Donc, ça s'appelle existence. Donc, tu peux voir quelqu'un parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de lumière divine qui se cache. C'est-à-dire, si je peux voir mon ami maintenant sur l'écran, c'est parce que la lumière d'Akadosh Baruch Hu s'est tellement cachée qu'il lui a laissé la place d'apparaître. C'est incroyable. Donc, nous sommes à l'ombre de cette lumière. Ça s'appelle en hébreu Betzalel. Betzel Ha'el. S'il n'y avait pas d'ombre, tu ne peux voir rien du tout. Même aujourd'hui, si tu mets une pleine lumière, une grande lumière sur un tableau, tu ne vois plus rien. La lumière est trop forte. Comment est-ce que tu peux découvrir une belle œuvre d'art? Justement, en diminuant la lumière. Donc, moins il y a de lumière, plus tu vois les couleurs et les nuances. Quand il fait trop, 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 trop de soleil, tu ne vois plus rien. Quand le soleil commence à se coucher, toutes les couleurs ressortent. Mais c'est comme ça dans notre vie. Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, se cache pour nous laisser nous voir. Tout ce que je viens de vous dire, les Chachamim disent dans la Kabbalah, allumer une bougie en plein soleil, ça ne sert à rien. Ça veut dire que si je suis en plein soleil, il est midi, il fait 50 degrés, et moi je t'allume une bougie pour te dire, regarde si tu veux voir où tu vas. Ça ne sert à rien. Ça s'appelle Sharga Betihara Mahane. En araméen. Qu'est-ce que tu es en train de faire? N'importe quoi, tu m'allumes une bougie alors qu'il fait pleine lumière. Tu n'existes même pas. Mais quand le soleil se couche et que c'est la nuit et que la lumière s'est cachée, quand tu vas allumer cette bougie, waouh, tu vas commencer à voir. C'est incroyable. Vous comprenez la puissance de Hanouka? C'est parce que c'est la période dans l'année où la lumière de Dieu se cache le plus. Donc toi, quand tu vas allumer cette lumière, tu vas avoir l'impression qu'il y a beaucoup de lumière. Me'at or doche harbe chosher. Banu chosher legaresh. Comprenez? C'est énorme. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu éteint sa lumière, c'est pour nous donner la possibilité, nous, de retrouver cette lumière. Un exemple, la plaie des ténèbres en Égypte, Makat Rocher. Qu'est-ce qui se passe dans la Makat Rocher en Égypte? Eh bien, paradoxalement, il y a marqué « Ulchol b'nei Israël haya'o ». Comment c'est Makat Rocher et tu as de la lumière? Et tout simplement parce que tu sais que c'est seulement au moment où Akadosh Baruch Hu te met un tout petit peu de Rocher que tu peux découvrir les lumières qui se cachent dans ta propre vie. Donc, qu'est-ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu au moment où il y a Rocher Mitzrayim? Venitzaltem et Mitzrayim. Profite! Va chercher clé kesef, clé zahav, clé smalot, dafka au moment du noir, dafka au moment du Rocher. C'est magnifique. Pourquoi t'as pas pris tout ça quand il faisait le jour? Ben parce que quand il fait tellement jour, tu ne vois rien. D'ailleurs, quand vous êtes bien dans votre vie, que tout marche bien, et vous n'avez jamais fait de progrès. Tous les progrès que vous avez faits dans votre vie, c'est parce qu'il y avait un moment où il y avait du noir. Ce qu'on appelle en français l'ajeb. Dafka, parce que tu es dans le noir, tu peux découvrir les éléments de lumière, donc tu dois être menatzel. Cette période difficile dans ta vie, quand tu es malade, tu vas découvrir des choses que tu n'as jamais découvertes quand tu n'étais pas malade. C'est incroyable. Quand tu sors en exil, tu vas découvrir Akadosh Baruch Hu, alors que quand tu es en pleine lumière en terre d'Israël, tu ne le vois pas toujours. Quand tu as des soucis, tu commences à apprécier ce que tu avais avant. Tu n'as jamais dit merci pour les yeux qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Et quand tu as mal à l'œil, tu te rappelles que tu as un œil. C'est pas dommage. C'est seulement parce que tu as mal à la tête que tu sens que tu as une tête. D'ailleurs, en hébreu, ça s'appelle Hachash Berosho. Maintenant, je commence à sentir. Mais quand tu as pas mal à la tête, tu ne sens même pas que tu as une tête. C'est pas haram. Comprenez que le tzimtzoum, ça va bien plus loin que seulement le tzimtzoum au niveau de la Kabbalah. J'ai appris le tzimtzoum, je suis un kabbaliste. C'est énorme. Et nous, on doit utiliser tout ça tous les jours de notre vie. À chaque fois que j'ai un petit tzimtzoum dans mon être, que je me lève et que je me sens pas très bien, ça veut dire que là, je dois trouver un élément de lumière qui se cache. C'est pour ça que je suis dans cette étroitesse, dans cette oppression, dans cette Égypte. Et après, ça passe. Et après, c'est autre chose. Et après, ça passe. Et après, c'est autre chose. C'est comme quand je respire. Oh. Si tu ne peux pas respirer d'une seule fois, chaque fois, tu es obligé de redonner. Alors quoi? Tu meurs et tu vis à chaque instant? Oui. C'est comme les battements du cœur. Tu passes toujours par zéro. C'est comme la lumière alternative que vous ne voyez pas. Vous avez l'impression que la lumière, elle est tout le temps allumée. Mais ce n'est pas vrai. Il y a toujours dévoilement, extinction. Dévoilement, extinction. Ça s'appelle de la lumière alternative. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Mais comme ça va très vite, tu as l'impression que c'est jour, 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 jour. Mais ce n'est pas vrai. Mais une caméra lente qui filme lentement, tu vas voir que ta lampe, elle s'allume et elle s'éteint à chaque instant. D'ailleurs, en français, tu ne l'entends pas, mais en hébreu, c'est dit. Ça s'appelle chashmal. Eitim chashot. Eitim memalelot. Chashmal. Il se tait, il parle. Il se tait, il parle. Il se tait, il parle. C'est ça le chashmal. Vous voyez que dans le mot chashmal, il y a déjà le courant alternatif. Bien entendu, tout ce qui va se passer dans notre monde, ça va être maintenant mesuré. Même nos paroles. Regardez combien d'exemples je suis obligé de donner pour que le cours passe. À chaque fois que je vous donne un exemple, c'est un vêtement. Ça vous permet de recevoir quelque chose. Donc vous faites un ancrage sur le vêtement en question. Et il vous reste l'image que je vous ai donnée, parce que c'est le vêtement qui contient le message. C'est comme ça que ça marche. Donc tout ce qu'on fait dans notre vie, ce ne sont que des tzimtzoumim et des hitpashtuyot. À chaque fois que je veux donner, il y a un degré au départ de tzimtzoum. Quand tu construis ta maison, au départ, tu ne fais que des tzimtzoumim. Kol habone beito mitmasken. Tu commences à construire ta maison, tu deviens misken. C'est bizarre. Pourquoi? Mais parce que tu commences à donner des limites. Avant, il y avait le monde entier. Maintenant, tu vas vivre dans 120 mètres carrés. Pas mal. Ben, c'est comme ça. Donc, tu donnes des tzimtzoumim. Ici, il y a un mur. Ici, il y a une prise. Ici, il y a un truc. Attends, tzimtzoum, 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 tzimtzoum. Mais je vais devenir fou. Ok, ok, ok. Alors, à la fin de tous ces tzimtzoumim, tu fais Hanukkah Bayit. C'est ça la Chanukat Bayit. Tu réouvres ta maison. Vous comprenez comment ça marche? Tout est comme ça. C'est ce qu'on appelle Yerida le Tzorech Aliyah. Je descends pour remonter. Mais je sais que je vais redescendre. C'est pas grave, je vais remonter. Comme dans l'échelle de Yaakov. Malaché Elohim, Olim, Veyordimbo. S'ils sont Olim, ça veut dire qu'ils étaient en bas. Veyordim, ça veut dire qu'ils reviennent en bas. Pour remonter, pour redescendre. Pour remonter, pour redescendre. C'est comme ça notre vie. Ce qu'on appelle Netzach Vehod. Tzava, l'armée. Qu'est-ce que c'est Tzava? C'est ou bo? Tzava, c'est ba. Yotze veba. Il sort, il rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre. Donc, Hatzimtzum ou Astarat Nochechuto, Ha'en Sofit. Donc, le Tzimtzum n'est là que pour cacher sa présence infinie. Pour ne pas t'étouffer, parce que à côté de sa présence infinie, toi, tu n'existes pas. Tu es, mais tu n'existes pas. Kedelitzor bakom panouille. Donc, il va falloir créer un endroit. Mais en fait, l'endroit, c'est quoi? Ben, c'est le nom d'Hachem. Yudke Vavke. C'est toujours la même chose. C'est lui qui a créé cet endroit, donc c'est lui-même. Comment est-ce que je vois ça? Eh bien, je multiplie les lettres entre elles. Yud multiplié par He. He multiplié par Vav. Vav multiplié par He. Ça me donne la valeur numérique Makom. Ça veut dire que le Makom, c'est lui-même lorsque chaque lettre se multiplie par elle-même. Yud fois Yud, ça fait 100. Hev par He, ça fait 25. Vav par Vav, ça fait 36. Et encore He par He, ça fait 25. Pardon. Eh bien, regardez, 100 plus 50, 150, plus 36, 186. 100, Makom, 100, 40 et 40, 80, Vav 6, 186, Makom. Le compte est bon. Donc, en réalité, tu comprends que même le Makom, c'est lui, mais il ne se dévoile pas. Où, mais comment, chez l'Olam? Mise en garde. En leitiaches le moussag tzimtzum le fimouvano apashut chalila. Attention de ne pas croire que le tzimtzum, c'est comme tu penses au premier degré. Medubar berayon shel pinui makom letzorech hakiyum. En réalité, c'est tout simplement libérer une présence infinie pour laisser la place à ta présence, à toi.
Ah.
Quel?
Est-ce que juste on pourra laisser quelques minutes, Arav, quelques bonnes minutes pour les questions, parce que je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions.
Alors, je laisse quelques bonnes minutes pour les beaucoup, 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 beaucoup de questions.
Alors, vous avez beaucoup de questions dans le chat, Arav. Avant que j'ouvre le micro, vous voulez passer dessus ou on rouvre le micro et les élèves posent leurs questions, comme vous voulez.
Voilà, j'ai ouvert le chat, mais je ne sais pas où il commence. Il y a plein de cours, non? Je n'ai pas le son. Ça non, fait partie après... de notre chat.
Alors, vos questions, elles commencent à partir de juste après.
Ceci n'est valable que pour le dévoilement lors de la création?
Oui.
Réponse, non. C'est valable tout le temps, puisque je vous ai dit tout à l'heure que les tzimtzumim se répètent et se répètent dans notre vie. Autre question de Chaya. Est-ce qu'on peut dire que les épreuves sont les contractions précédant un dévoilement? Tout à fait, Chaya. C'est exactement de ça que je parle. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une épreuve, en réalité, c'est comme creuser un vide pour demander la réponse qui se cache à l'intérieur. Tout à fait. Aïe, ça m'est sorti. Ils sont où les chats?
J'ai coupé le partage, mais le chat.
J'ai plus de chat, là. Ah, voilà.
De Félicia Citron.
J'ai encore... Bon, tu peux me les lire parce que là, j'en ai trop et je ne sais plus où ils sont. Ah, alors, voilà. Voilà. Sima ma Misa, c'est quoi ça? Sima Misa, c'est Netina. Dois-je, ma Mida peut-être. Sima Mida, c'est Netina. Dois-je la contracter aussi? Ben, badaï. Si tu ne contractes pas ton don, eh bien, tu peux donner à n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Donc, il y a un problème. Bien entendu. Heureusement qu'on doit contracter nos dons, parce qu'on ne s'arrêterait jamais de faire des bêtises. Hachem se cache parce que nous ne sommes pas capables de le ressentir. Non, c'est pas pour ça qu'il se cache. Parce que tout simplement, s'il éclairait de sa pleine lumière, eh bien, tu n'existerais même pas. Au contraire, il se cache pour que tu puisses plus ressentir parce qu'il te laisse en fait le choix d'être. Autre question, Gabriel. L'état que du dévoilement, c'est Toi Bohu. On peut dire que c'est que du Toi Bohu s'il n'y a pas de céder. Mais chez lui, à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas du Toi Bohu, Ken, bien entendu. Quand la lumière se répandait de partout avant le Tzimtzum, on n'appelle pas ça le Toi Bohu, on appelle ça le Seder absolu. Chez lui, il n'y a pas de Toi Bohu. Le Toi Bohu, c'est que par rapport au récepteur. Alors, à Tzimtzum, Zahor Aganouz, l'eau. Le Tzimtzum, c'est justement cacher cette lumière. Donc le Oraganous, ce n'est pas le Tzimtzum. Le Tzimtzum a permis au Oraganous, au Or, de se cacher. Mais donc, nous, on veut dévoiler cette lumière. Donc il va falloir tout doucement, enlever les écrans de la cachette. Est-ce que le lieu de la cachette est le lieu de l'existence? Oui, tout à fait. Evelyne Garibaldi. C'est en réalité le lieu de la cachette, c'est le lieu de l'être. Où je m'émerge. Exactement, j'émerge. Tout à fait. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez parlé du dialogue avec la Neshama Israël, mais avant le Tzimtzum, comment est-il possible qu'il y ait autre chose que l'infini béni soit-il? Eh bien, justement. La pensée de l'infini contient aussi la pensée d'Israël. Donc il y a, et ce n'est pas autre chose. Et c'est pourquoi les Chachamim dans le Zohar nous disent qu'Israël et Akadosh Baruch Hu et la Torah, c'est une seule et même chose. Sans rentrer maintenant dans les détails, ça va très loin. Le Sod étant la synthèse. Tout à fait, Evelyne, tu as raison. Le sod est la synthèse entre le fait de se cacher, le fait de se dévoiler. Mais qu'arrivera-t-il si on laisse Hachem dans sa cachette, qu'on ne le cherche plus? Eh bien, il se dévoilera tout seul, malgré nous. Et donc, ça fait mal. Il vaut mieux être actionnaire dans son dévoilement, parce que la Géoula va se faire de toute façon. Et il vaut mieux être participant. Parce que Akadosh Baruch Hu ne rate pas sa création, vous comprenez bien. Donc il est, entre guillemets, obligé de la réaliser. Yanchilenu yom shekulo shabbat umnucha lechaye olamim. Amen ken yei ratzon. C'est exactement ça. Comment savons-nous que Hachem intervient? Eh bien, nous le voyons quand il nous permet de réussir ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, quand on crée l'État d'Israël et qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous, ça veut dire que l'État prospère, grandit, devient de plus en plus beau, de plus en plus intelligent, de plus en plus riche, de plus en plus dans tous les domaines. Ça veut dire qu'il y a une action divine cachée à l'intérieur de nos propres actions. Et les Chachamim nous disent, t'as qu'à aller voir les fruits, s'ils sont de plus en plus beaux, c'est que nous sommes dans une participation évidente du divin. Contrairement à ce que nous disent les ennemis, que nous sommes maudits, la preuve, la plus grande des preuves, c'est que nous sommes revenus sur notre terre. Donc la malédiction s'est terminée. Pourquoi dit-on que les miracles de la Géoula finale seront encore plus spectaculaires que ceux de Yetziat Mitzrayim? Justement, parce qu'ils sont cachés dans la nature. Donc c'est beaucoup plus spectaculaire. Mais si vous voulez regarder le ciel et voir des notes de musique ou des talitotes, c'est dommage, vous réduisez le miracle. Donc, dans les Nevi'im, nombreuses prophéties n'évoquent-elles pas de manifestations extraordinaires? Tout à fait. Elles sont tellement extraordinaires qu'elles s'habillent dans l'ordinaire. C'est ça le plus grand des miracles. C'est pour ça qu'il y a marqué « Ki lo bechipazon tetzeu, velo bimnusa telechun » Ça sera habillé dans la nature. « Amachazir shchinato letzion » Ça s'est habillé quand tu as fait ton aliyah. Tu as vu quelque chose? Eh bien, c'est dommage. Il aurait fallu voir. Quand tu as fait ton aliyah, c'est Akadosh Baruch Hu qui revient sur sa terre. C'est ça qu'on n'arrive pas à voir. Et quand on se sent dans le noir, je peux sentir Akadosh Baruch Hu plus près? Ben, vadaï. C'est justement ce qu'on te demande de faire. Mais si tu tombes dans le noir du premier degré du noir, eh bien tu te dis « Yéhouch, il n'y a plus personne ici, je désespère, je laisse tout tomber. » Alors vient Rabbi Nachman, il te dit « En Yéhouch ba'olam klal » Fais attention de ne pas tomber dans cette dépression. Au contraire, quand tu es dans une situation comme ça, ne va pas la chercher, mais elle vient. Alors quand tu te sens un petit peu avec une rhamma, c'est pas la peine seulement d'aller dormir pour qu'elle passe. Essaye de comprendre d'où ça vient. Qu'est-ce que tu as fait de mal dans ta vie, dans ta réflexion, dans ta parole, dans tes actes, dans ta bouche, pour que tu te sentes mal? Il y a quelque chose qui s'est éteint. Va chercher la lumière. C'est pas bien dit, mais c'est l'idée. Bon, mais je l'ai comprise, l'idée. Merci beaucoup. Informatique, langage 10101. Tout à fait. Nous sommes dans un monde binaire, 0, 1, 0, 1, ça s'appelle de l'automatisme. C'est comme ça que marchent tous les tapis de l'aéroport pour récupérer vos valises. Minimalisme, ok, je prends aussi, Toda Rabba. C'est ce qui se passe aussi dans l'art. Au début, on veut tout mettre, et tout doucement, on va vers la Hit Pashtut, vers le Moufchat. Sheva Ipol Tzadik Vekam, c'est vrai aussi, tout à fait. Merci, Meira Malka. Chaya, quelle est la différence entre être et exister? Ben, être, c'est être, et exister, c'est sortir cette existence, la voir. Donc, ex-ister. Ist, c'est déjà être. Mais ex-ist, c'est que cet être se montre. D'accord? Alors, il n'y a rien en dehors de lui. Qui vous l'a dit ça? C'est une mauvaise compréhension. En od milvado, ce n'est pas exactement ce degré ça. Il faudrait faire un chiour sur ça. Beaucoup de gens traduisent comme vous venez de le dire, comme s'il n'y avait rien d'autre que lui. C'est faux. S'il n'y avait rien d'autre que lui, ça veut dire que tout le monde devrait se prosterner à Yoel. Alors, Befer Kachal et Ishtachavot le Yoel, si je suis lui. Asve Shalom. Faites très attention, c'est de la Avodazara.
Il n'y a plus de questions, il y a question maintenant de Zachary Lachmi.
Zachary Lachmi, alors quel est.
Bonjour, Rav, merci beaucoup. Vous avez pris l'exemple beaucoup de la respiration pour parler de la contraction et de l'expansion.
Ok. Et
on en parle beaucoup aussi dans la méditation qu'utilise ce point qui fait le lien entre la respiration et dans la respiration pour justement parler de l'existence, pour prouver en fait que l'existence se place dans une conscience globale. Et est-ce que ça nous donne une méthode d'application pour ressentir ce qu'on a expliqué là en théorie ou rien à voir et pas sous les gamins?
Si, si, bien sûr, ça nous donne, puisque justement nous disent les Chachamim que tout le secret de ce monde se passe dans la respiration. Il est trop tard. Donc si on savait respirer convenablement, on n'aurait aucune maladie. Parce qu'en respirant, on fait pénétrer la Neshama de plus en plus dans notre être et elle circule en nous. C'est pour ça que la Neshama se dit comme la respiration, Neshima. Donc une véritable respiration, c'est en fait, un, j'allais dire, une tension entre l'expansion et le dévoilement. Et donc, bien entendu, quand vous respirez convenablement, c'est extraordinaire parce que c'est là où vous êtes. Et vous pouvez vous retrouver, d'ailleurs, vous pouvez vous endormir en quelques respirations, même ceux qui ne peuvent pas dormir. C'est parce que vous ne savez pas respirer. Et la plupart d'entre nous, nous respirons de tout petites respirations qui ne servent pratiquement à rien, si ce n'est que de nous donner des maux de tête au bout de 10 minutes.
Rav, question de Rabin Messan.
Toda Rabba, kavod Rav.
Toda Rabba.
Il est dit dans Bereshit, Bara Elohim et Atares, quand on voit Elohim, on voit déjà qu'il y a peut-être une limite.
Tout à fait.
Mais allons-nous dire qu'il y a un ordre fini ou une limite dans l'infini? S'il y a une limite, à quel niveau se situe dans les Abba Olamot? C'est-à-dire, à quel niveau on le sent? Est-ce une prise de retenue de soi? Par exemple, quand il veut faire du mal, il veut détruire le peuple, Moshe intervient, il se retient. C'est une force de retenue qu'il est en train de nous enseigner déjà au travers de la création du monde.
Alors, c'est une question très, très, très profonde. Je vous remercie de cette question. Elle va très loin. Toutes ces nuances-là n'existent que par rapport à nous. Mais étant donné que la Torah nous parle un langage qui nous convient, donc la Torah va utiliser des éléments que l'homme peut comprendre. Donc fait qu'effectivement, il y a des éléments de retenue. Et je peux utiliser cette explication de Tzimtzoum comme de la contention. C'est-à-dire, je retiens les forces pour ne pas les donner complètement. De la même manière que je retiens en fait le ciseau, quand je veux couper quelque chose de très délicat, je ne vais pas rentrer de toutes mes forces. Donc, je contiens ma force et je ne lâche pas complètement. Donc, effectivement, dans la création du monde, le mot Elohim introduit cette notion de Tzimtzum et donc ça commence à partir du monde de Beria.
D'accord.
Encore plus dans Yetzira, encore plus dans Assia.
Mais est-ce que la Sirut ne nous signale pas déjà une production de limites, vu qu'au niveau de la Sirut,
on voit les chiffres, par rapport à l'infini,
dans la Sirut,
déjà,
on voit les 10 sépirotes,
tout à fait, par rapport à l'apparition des 10 sépirotes, par rapport à l'infini, c'est déjà une limite, tout à fait. Mais par rapport à nous, c'est comme si c'était déjà l'infini, Atzilut lui-même.
Toda Rabba,
Kavod Rav. Arav Yoel, il est midi 18. Toda Rav, Shavuatov.
Shavuatov, Umeboa.
Toda Rav.
Et merci pour votre assistance. Toda Rav.
Merci à vous.